les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. RDC, les États-Unis ont appelé l'opposition congolaise à s'abstenir de propos incendiaires dans le pays, miné par une crise politique liée au report de l'élection présidentielle. Brian Newbird est porte-parole francophone du département d'État américain.
Cette déclaration, ça vient de l'ambassade, également du porte-parole du département d'État, John Kirby, disant que les États-Unis sont prêts à continuer notre soutien au peuple congolais, mais actuellement, la situation est urgente. Nous soulignons l'importance de cette opportunité qui est facilitée par les évêques catholiques. Ces discussions devraient être sérieuses entre le gouvernement et l'opposition. Pour les deux côtés, donc, l'opposition doit être sérieuse et discuter des solutions pratiques. Et nous encourageons ces membres de l'opposition d'éviter des déclarations qui n'aident pas à ce processus. Il y a une piste, mais maintenant c'est urgent. Les États-Unis encouragent le gouvernement protéger les droits fondamentaux des citoyens congolais et respecter la Constitution.
Brian Newbird du département d'État américain, joint à Johannesburg par Nicolas Pinault. Cameroun, 6 militaires camerounais, un officier, un sous-officier et 4 soldats ont été tués lundi soir lors d'une attaque menée par les djihadistes nigériens de Boko Haram contre une position de l'armée sur l'île de Darak, sur le lac Tchad. En plus des militaires, un civil membre du comité de vigilance de Darak a été tué. Toujours lundi soir, une jeune kamikaze qui tentait de s'introduire dans la ville de Kolofata, frontalière du Nigeria, pour s'y faire exploser, a été abattue par l'armée nigériane, par l'armée camerounaise, alors que la moto qui la transportait venait de forcer un barrage militaire. Au Tchad, l'appel à une journée ville morte aujourd'hui lancé par le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, a eu peu d'impact à N'Djamena, la capitale, où les fonctionnaires sont en grève pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Confronté à un effondrement de ses recettes du fait de la baisse des cours du pétrole, le gouvernement tchadien a quand même annoncé lundi, à la veille du mouvement, le déblocage d'un mois de salaire pour les agents publics qui se pressaient aujourd'hui devant les banques restées ouvertes comme les entreprises privées. Mais du fait de la grève des fonctionnaires, les établissements scolaires sont fermés et les hôpitaux assurent seulement un service minimum. Paris, à l'issue d'un entretien avec son homologue français François Hollande, le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé aujourd'hui ne pas souhaiter que de nouveaux pays africains quittent la CPI, la Cour pénale internationale. Il dit que la Côte d'Ivoire restera membre de la CPI, le président Alassane Ouattara.
Ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI. Et je pense que la plupart des pays sont dans cette volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité. C'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du continent. Donc la Cour pénale internationale fait son travail. Souvent d'ailleurs à la demande des pays africains, des autorités africaines. Ah oui, vous savez, les élections, vous en savez quelque chose, les résultats sont imprévisibles. Nous sommes trop petits pour avoir des observations sur les résultats des élections américaines. Et bien évidemment, les Américains ont fait leur choix et nous travaillerons bien évidemment avec le gouvernement.
Le président ivoirien Alassane Ouattara qui a également commenté les récentes élections américaines. Rappelons que 3 pays africains ont annoncé récemment leur intention de quitter la CPI, à savoir la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi. 3 autres pays africains pourraient suivre, selon des experts, qui citent le Kenya, la Namibie et l'Ouganda, tous 3 grands détracteurs de la CPI.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burkina Faso, après les médias publics et les enseignants, c'est maintenant au tour des agents de la santé de se mettre en grève aujourd'hui pour 72 heures. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale exige la mise en application de leur plateforme revendicative. Les explications de Pissa Mouedraogo, secrétaire général du syndicat.
Nous avons choisi à notre corps défendant un mot d'ordre de grève totale dans l'optique que le gouvernement puisse effectivement se pencher assez rapidement sur nos revendications. Nous savons que même lorsque nous travaillons, il y a beaucoup de désagréments. On sait bien que notre activité est socialement utile. Mais apparemment, nous, on pense que le gouvernement n'y croit pas. C'est pourquoi il n'a pas écouté à la première grève. Et les travailleurs, avec le syndicat, nous avons donc choisi cette forme-là pour effectivement nous faire entendre. D'abord, notre plateforme n'est pas satisfaite. Et deuxièmement, nous, on pense qu'elle n'est pas satisfaite parce que le gouvernement nous méprise. Il n'y a pas de sérieux lorsqu'il discute avec nous. Nous avons déposé la plateforme revendicative le 18 avril 2016. La première rencontre a eu lieu le 26 avril. Depuis, plus rien, jusqu'à ce qu'on dépose la plateforme le 12 octobre 2016 pour avoir une rencontre le 18 octobre. Vous voyez, le gouvernement s'en fout de nous. C'est pourquoi les travailleurs ont estimé qu'il était de leur devoir de ne pas permettre qu'on abandonne le système de santé et les travailleurs de la santé de cette façon.
Pissam Ouedraogo, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale au Burkina Faso. Au Sénégal, des amis de longue date de Lamine Diack, ex-patron de l'athlétisme mondial inculpé de corruption, ont versé la caution de 500 000 euros que lui réclame la justice française. Les détails avec Chérubin Dorsil.
Lamine Diack est poursuivi depuis novembre 2015 pour corruption passive et blanchiment aggravé. Il est sous contrôle judiciaire en France. Son passeport étant confisqué, il ne peut quitter ce pays. D'après un communiqué diffusé par sa famille, des amis de longue date ont versé la caution réclamée par le parquet français, soit 500 000 euros. Le texte n'identifie aucun de ses amis de longue date. Cette caution devrait lui permettre d'éviter tout risque de détention provisoire. Un de ses fils, Papa Massata Diack, qui fut consultant à la Fédération mondiale d'athlétisme, est poursuivi dans la même affaire. Il est soupçonné d'être l'un des acteurs du système de corruption mis en place pour couvrir les cas de dopage. Il a été placé par Interpol sur la liste des personnes les plus recherchées à la suite d'un mandat d'arrêt émis par la France. Papa Massata Diack réside au Sénégal. En janvier, Dakar a exclu son extradition vers la France.
Politique américaine maintenant, la future administration Donald Trump ne poursuivra pas plus avant l'enquête sur l'affaire des courriels privés de Hillary Clinton. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Kellyanne Conway, l'une des plus proches conseillères du président élu. Lors d'un débat présidentiel, Donald Trump avait affirmé devant Hillary Clinton que s'il était élu, il demanderait à son ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour enquêter sur l'affaire du serveur privé. Le président élu serait donc prêt à revenir sur l'une de ses promesses de campagne et l'un des slogans qui avait le plus enthousiasmé ses partisans lors des meetings. « Lock her up, enfermez-la ». L'utilisation de serveurs privés par Hillary Clinton pendant ses 4 ans à la tête de la diplomatie américaine lui a valu de sévères réprimandes de la part du FBI et de la police fédérale, mais pas de poursuite. Et cette affaire a aussi empoisonné toute la campagne de Mme Clinton pour la Maison-Blanche. Politique américaine toujours, le président élu Donald Trump a déclaré que ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche seront fondés sur un principe très simple, l'Amérique d'abord. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Donald Trump a publié sur YouTube une vidéo disant qu'il a instruit son équipe de transition de lui soumettre une liste de décrets qu'il peut prendre dès le premier jour de son administration. Des mesures qui vont, selon lui, restaurer nos lois et rapatrier nos emplois, que ce soit pour produire de l'acier, construire des voitures et guérir des maladies. M. Trump a poursuivi « Je veux la prochaine génération de production et d'innovation ici même, créant de la richesse et des emplois pour les travailleurs américains ». Dès le premier jour, a encore promis M. Trump, il notifiera son intention de se retirer du TPP, l'accord commercial de partenariat transpacifique, et de renégocier ce qu'il a appelé des accords bilatéraux justes. Par ailleurs, pour toute nouvelle réglementation fédérale, il faudra en éliminer une ancienne. M. Trump va aussi demander au Pentagone de mettre au point un plan global pour protéger les infrastructures américaines contre les cyberattaques.
Et pour terminer, en Égypte, la Cour de cassation a annulé ce mardi une condamnation à perpétuité prononcée contre l'ancien président islamiste Mohamed Morsi après sa destitution en 2013 par l'armée. C'est ce qu'annonce un responsable judiciaire et l'avocat du président Morsi. L'ex-président avait été condamné en juin 2015 dans un procès pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah libanais et de l'Iran. Les peines de plusieurs responsables de sa confrérie islamiste jugée à ses côtés ont également été annulée ce mardi, a indiqué Maître Abdelmoumine Abdel Maxou.